I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. Cette semaine, Esther s'est penchée sur la proposition de loi dite de sécurité globale qui mobilise actuellement bon nombre de citoyens, de journalistes, d'activistes de tous horizons contre le fameux infâme article 24, parmi d'autres mesures sujettes à caution ou du moins à débat. Pour y voir plus clair et bien comprendre les enjeux de cette loi et des protestations qui émaillent l'actualité, Activiste invite cette semaine un professeur de droit public, auteur de « La République en miettes, l'échec de la Startup Nation ». C'est un épisode un peu différent, on ne s'arrête pas sur le parcours d'engagement personnel de notre invité, mais on lui tend le micro en tant qu'expert pour nous aider à mieux comprendre un sujet qui mobilise dans la société, en l'occurrence l'article 24 de la loi Sécurité globale, et plus largement l'approche sécuritaire adoptée par le macronisme. Parole à Paul Cassia, professeur de droit public, interrogé par Esther Meunier. Bonne écoute.
Alors bonjour Monsieur Cassia.
Bonjour Madame Meunier.
Première question, je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet, dans ce qui fait polémique ces derniers jours, voire dernières semaines. Est-ce que vous pourriez me décrire l'objet de l'article 24 de cette loi sur la sécurité globale, celui qui fait la une et qui concentre toute l'attention ?
L'article 24 de la loi sur la sécurité globale prévoit que sera puni d'une amende et d'une peine de prison la diffusion d'images non floutées de forces de l'ordre lorsque cette diffusion portera atteinte à l'intégrité psychique ou physique des agents concernés. Donc c'est une nouvelle incrimination qui est prévue par la proposition de loi relative à la sécurité globale, qui est rédigée d'une manière assez byzantine, parce qu'en elle-même, elle n'interdit pas que soient filmées les forces de l'ordre en pleine action, mais de fait, cette interdiction est incontournable, parce que la notion de porter atteinte à l'intégrité psychique est tellement large et dépend de finalement du libre arbitre de chacun des agents concernés que il vaut mieux se retenir, s'auto-limiter et ne pas filmer l'action des forces de l'ordre sur la voie publique. Donc de fait, cette disposition revient à interdire que soit filmée en direct l'action des forces de l'ordre et que soit diffusée en direct sur les réseaux sociaux et dans les médias, l'image des forces de l'ordre sur la voie publique.
Le but de l'article présenté par le gouvernement, en fait, c'est de protéger les forces de l'ordre, notamment des menaces. On a entendu Gérald Darmanin dire ces derniers jours, oui, on ne veut pas que les policières puissent être victimes de violences, de menaces de viol, par exemple. Mais en fait, moi, j'ai une question. Est-ce que ça, c'est pas déjà interdit ? Les menaces à l'encontre des forces de l'ordre, comme d'ailleurs les menaces à l'encontre de...
Et évidemment que c'est interdit, c'est une évidence. Toute forme de menace, a fortiori sur les forces de l'ordre, est déjà interdite, peut déjà faire l'objet de sanctions pénales. Cette interdiction, elle intervient en quelque sorte a posteriori, une fois que la menace est formulée. Et À cet égard, M. Darmanin prend l'exemple vraiment détestable et vraiment presque inquiétant pour ce que ça reflète de sa psychologie, de l'épouvantable assassinat d'un couple de policiers à Magnanville. Or, il se trouve que ces policiers ont été assassinés par un de leurs voisins, indépendamment de la diffusion de quelque image que ce soit sur les réseaux sociaux. Cette protection nécessaire des forces de l'ordre, comme d'ailleurs de toute personne, qu'elle soit agent public ou pas, à l'encontre de menaces dont elle fait l'objet, c'est nécessaire. Nous ne pouvons pas subir, quel que soit notre statut, quel que soit notre âge, notre sexe, notre religion, nous n'avons pas à subir des menaces sur notre intégrité physique. Eh bien, cette nécessaire protection, elle existe déjà. L'objet de l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale n'est pas du tout de protéger les forces de l'ordre, parce qu'on ne les protège pas en interdisant de les filmer. Ce n'est pas une forme proportionnée de protection, c'est-à-dire qu'en mettant un voile d'ignorance sur leur action, le ministre de l'Intérieur considère que ce voile est une forme de protection. C'est en réalité un détournement de la finalité de la proposition de loi, qui n'est pas du tout de protéger les forces de l'ordre, pas du tout, qui est de leur permettre d'exercer la police de l'action de l'exécutif, la préservation de l'action de l'exécutif, sans aucune contrainte. Donc en cela, la proposition de loi sur la sécurité globale, c'est une loi de police. C'est une loi de police parce qu'elle n'a qu'une seule finalité, cultiver l'arbitraire, interdire le contrôle citoyen, le contrôle de la presse sur l'action d'agents des forces de l'ordre et par conséquent laisser libre cours à cette action sur la voie publique. Je vais donner un exemple très simple de la conséquence de la proposition de loi sur la sécurité globale. Il y a quelques mois aux États-Unis une affaire qui a fait trembler l'Amérique, celle du meurtre de George Floyd, un Afro-Américain, comme on dit, qui a été étranglé par des policiers pendant 8 minutes sur la voie publique. Eh bien, la proposition de loi sur la sécurité globale interdit, de fait, à quiconque de filmer ce type d'action. C'est ce qu'on a vu aussi pour le décès de Cédric Chouva, toujours dans l'année 2020, à Paris. Nul ne sera plus habilité ou en droit de sortir son smartphone devant un policier ou un gendarme agissant sur la voie publique, dans les manifestations ou ailleurs, parce que le simple fait de filmer pourrait constituer une atteinte à l'intégrité psychique des forces de l'ordre et pourrait tomber sous le coup de la sanction de l'article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale. Donc là, cette proposition de loi est folle. Les pires régimes autoritaires rêveraient de la mettre en place. Et au final, elle dessert considérablement les agents publics à qui elle s'adresse, c'est-à-dire qu'elle met un halo de suspicion sur l'action des forces de l'ordre, qu'on considère ne pas pouvoir être filmées, ça voudrait dire qu'elles ont des choses à cacher, qu'il y a des actions qui ne devraient pas être montrées au grand public. Donc cette proposition est désastreuse à tout point de vue, sauf pour l'exécutif, parce que ça lui donne une garantie que ses actions ne seront pas contestées sur la voie publique, ne feront pas l'objet de manifestations hostiles. Donc on met on met un couvercle pénal sur la marmite sociale, espérant ainsi que les bon an mal an, les choses continueront jusqu'à la fin du quinquennat, sans entrave particulière pour le gouvernement.
Je voudrais revenir sur ce que vous appelez cette interdiction de fait, parce qu'en fait, si on regarde les mots de cet article 24, il dit bien qu'il est interdit, qu'il est puni le fait de diffuser des images. Donc il ne dit pas qu'il est interdit de prendre ces images. Il est même ajouté ensuite que ça ne fait pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes d'images et d'éléments d'identification d'un fonctionnaire de la police dans le cadre de procédures.
Bien sûr, la diffusion est interdite, mais vous voyez, Madame Meunier, quand vous tenez un smartphone devant moi, je ne sais pas si vous diffusez une image en direct sur un réseau social ou si vous prenez une photo qu'ensuite vous allez la flouter et la diffuser sur le réseau social. C'est impossible, on ne peut pas faire la différence. C'est indiqué nulle part sur le smartphone si la diffusion est en direct ou n'est pas en direct. Par conséquent, le simple fait de brandir un appareil photo, un smartphone, est prohibé ou peut être prohibé et peut même faire l'objet d'un placement en garde à vue. Parce que potentiellement, il n'est pas exclu que vous puissiez diffuser les images en direct. Peut-être que vous ne le faites pas. Peut-être qu'une personne peut, en effet, prendre une photo, prendre quelques images en film de force de l'ordre sans les diffuser instantanément. Mais ce n'est pas marqué sur l'appareil. Ce n'est pas matérialisable dans l'intention du tiers à l'opération de police. Et par conséquent, au-delà des mots, c'est la diffusion très concrètement en pratique, parce qu'il faut voir comment les textes s'appliquent en pratique. Sur le terrain, cette interdiction de diffusion revient à interdire de filmer, de capturer en direct des images, parce que potentiellement, ces images peuvent être diffusées, même si elles ne le sont pas, elles peuvent potentiellement être diffusées sur les médias et réseaux sociaux.
Donc on a une loi dont on dit qu'elle mettra davantage en danger, ou en tout cas qu'elle couvrira davantage les violences qui peuvent être le fait des forces de l'ordre, et aussi qui restreindra la capacité des journalistes et des citoyens à documenter tout simplement ce qui se passe sur le plan des luttes, par exemple, mais pas uniquement. Sur la liberté de la presse, ça me semble important de préciser que ces derniers jours, on a aussi d'autres discours qui semblent confirmer une sorte de tour de vis supplémentaire. On a eu le ministre de la Justice qui dit vouloir toucher à la loi de 1881 pour éviter que, en gros, ceux qui ne sont pas journalistes et qui ne méritent pas d'être protégés par cette loi, mais qui s'en servent, ne puissent plus en bénéficier. Et il y a donc le ministre de l'Intérieur qui dit qu'en fait, si un journaliste veut couvrir une manifestation, il doit désormais, selon son schéma de maintien de l'ordre qui a été publié en septembre, la nouvelle doctrine, ils doivent donc se rapprocher des autorités et donc se signaler à la préfecture de police pour pouvoir être protégés pendant les manifestations. Donc moi, j'ai une question. Est-ce que de votre perspective juridique, on peut dire que cette loi et ces discours participent en fait d'une dynamique globale de musellement de la presse ?
Madame Meunier, il y a ici une dérive autoritaire du pouvoir macroniste qui est très, très inquiétante et très dangereuse. Et il est nécessaire que nous, citoyens et citoyennes, nous en prenions la mesure et nous nous réveillons avant qu'il ne soit trop tard et peut-être... Peut-être est-il d'ores et déjà trop tard, je l'ignore. Alors, un petit élément de contexte, nous sommes en état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire que nos droits et libertés sont extrêmement contraints, que le Parlement légifère dans des conditions particulières et... en tout état de cause, que la priorité des pouvoirs publics devrait être de concentrer tous leurs moyens, toutes leurs facultés, toute leur énergie à la lutte contre la pandémie et à sa prévention. Or, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons une diarrhée législatives, réglementaires et pararéglementaires, de mesures réglementaires, de mesures sécuritaires qui sont proposées en cascade, à flux continu, en mode mitraillette par le gouvernement, de sorte qu'il n'y a pratiquement plus une journée sans que une nouvelle invention sécuritaire soit proposée. Ça donne presque le tournis, parce qu'on passe, comme vous l'avez indiqué, de la proposition de loi sur la sécurité globale à l'interdiction sous peine de sanctions pénales d'occuper des campus, à la nécessaire accréditation des journalistes, à la modification de la loi de 1880, et tout ça toujours, bien sûr, dans le but de nous protéger. Je voudrais rappeler, de la manière la plus solennelle possible, que M. le Président de la République, Emmanuel Macron, dans cet ouvrage de 2016 qu'il a publié pour sa campagne, qu'il faut absolument relire tant il est, plus les années passent, tant il devient drôle, c'est presque c'est une bouffonnerie de discordance entre le discours et les faits. Dans cet ouvrage de 2016, M. Macron écrit ceci. On sait bien que la diminution des libertés de tous n'a jamais provoqué nulle part d'accroissement de la sécurité. Je répète parce qu'il faut avoir à l'esprit que cet homme est toujours, toujours en discordance absolue entre ses discours bienveillants et ses actes malveillants. Je relis. On sait bien que la diminution des libertés de tous n'a jamais provoqué nulle part d'accroissement de la sécurité. Je tiens ces illusions pour profondément nuisibles en elles-mêmes et parce qu'elles sont inefficaces. Voilà. Alors, il suffit donc de renvoyer M. Macron à ses écritures de campagne pour réaliser à quel point, d'abord, nous avons élu, enfin, a été élu, une personne qui ne tient pas parole, qui ne sait pas respecter des engagements, qui n'a pas d'idéologie particulière, si ce n'est celle de convenir aux nécessités du moment et de la perpétuation de son pouvoir, et aussi pour voir que cette personne a une double personnalité. Il y a le Macron des discours. C'est le Macron de 1789, c'est le Macron qui se situe dans une tradition libérale au sens philosophique du terme, et il y a le Macron des actes, c'est le Macron qu'on voit depuis 2017, qui prolonge l'état d'urgence, qui met en place l'état d'urgence sanitaire, qui adopte une loi anti-manifestant et qui multiplie les mesures sécuritaires en cette fin d'année 2020. Donc, ici, ce que fait en réalité M. Macron et à travers lui son gouvernement, par l'empilement de ce millefeuille sécuritaire dont on ne se défera pas, c'est qu'il est en train de mettre en place progressivement l'équivalent d'un Patriot Act à la française, ces dispositions qui a été adoptées par George Bush en septembre. En septembre 2000, à la suite de l'attentat commis par Al-Qaïda contre les tours jumelles. Et ce millefeuille conduit à une disparition progressive de nos droits et libertés, sans nous apporter la moindre once de sécurité physique ou sanitaire en plus. Donc nous perdons sur tous les tableaux. Sur le terrain de la santé publique, le virus est toujours là. Sur le terrain du terrorisme, la menace est toujours là. En revanche, sur le terrain de notre vie quotidienne, nous avons tout perdu. Et j'en donne un exemple très concret. Aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre 2020. A été publié au Journal officiel ce matin un décret de M. le Premier ministre Jean Castex qui a pris sa plume pour autoriser la vente de sapins pour Noël. Et nous en sommes là, en cette fin d'année 2020, nous en sommes à attendre que le chef du gouvernement décide ou pas si nous pourrons acheter des sapins de Noël, parce que jusque-là, les sapins de Noël étaient interdits à la vente au prétexte de la lutte contre le coronavirus. La situation est tout à fait dramatique. C'était assez peu visible en 2015 quand il y avait l'état d'urgence sécuritaire, quand il y avait les attentats, parce que tout le monde considérait à tort, que ces mesures visaient des, entre guillemets, terroristes. Ce qui était radicalement faux. Et l'engrenage inéluctable a suivi son petit bonhomme de chemin, qui a fait que nous avons toutes et tous été assignés à domicile, tout comme les assignés à résidence de l'état d'urgence sécuritaire en 2015-2017. Nous avons été assignés à domicile 23 heures sur 24 pendant le grand confinement entre mars et mai 2020, sans que personne, ni vous, Madame Meunier, ni mes voisins, ni quiconque, ne trouve à critiquer la légitimité de cette mesure et à remettre en cause son efficacité. Et aujourd'hui, nous sommes contraints d'accepter que le gouvernement décide ce qu'est un commerce essentiel et ce qu'il n'est pas. Nous sommes contraints d'accepter que des livres, ne puissent ne pas être vendus au nom de la lutte contre le virus. Je crois qu'une société qui accepte une telle servitude volontaire, me semble-t-il, je ne vais pas dire est fichue, ce serait un peu triste, mais est dans une mauvaise passe. Il est temps, je ne sais pas si c'est encore possible, mais il est temps que nous ouvrions les yeux collectivement, que nous fassions un bilan de toutes ces mesures qui ont été adoptées, de celles qui sont proposées, que nous vérifions si ces mesures ont eu une efficacité et que dans la négative, parce que la réponse est évidemment négative, nous nous interrogions sur une méthode différente qui permettrait de lutter contre le terrorisme par d'autres voies que la répression et lutter contre un virus par d'autres voies que l'assignation à domicile, fermeture de commerce de 67 millions de personnes.
Alors, on va revenir sur ce danger que vous commencez à expliquer au niveau de l'état de droit, mais je voudrais qu'on le fasse à la lumière du reste de ce texte sur la loi sécurité globale, parce qu'on parle donc énormément de cet article 24, mais ce n'est pas du tout la seule disposition du texte. Je voudrais redire que cette loi, à l'origine, elle visait à transposer juridiquement, législativement, des dispositions d'un rapport parlementaire qui voulait mieux articuler le travail entre donc la police et la gendarmerie d'une part, la police municipale d'une autre part, et aussi le secteur de la sécurité privée. Donc, au final, dans le texte, je vais citer quelques mesures, hein, je ne vais pas forcément pouvoir toutes les donner parce qu'il y en a beaucoup. On a donc plus de compétences pour la police municipale et la création d'une police municipale à Paris. Pour les agents de sécurité, on a renforcé la formation. On a durci aussi les conditions d'accès à ces métiers-là. On habilite aussi les agents de sécurité à détecter des drones. Sur l'usage des caméras mobiles, les policiers pourront désormais transmettre les images en temps réel à leur salle de commandement. On a aussi l'usage des drones en surveillance de manifestations et surveillance des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, vol ou trafic en tout genre qui est autorisé. Un élargissement de l'usage des armes des forces armées pour pouvoir mettre fin au parcours criminel. Et aussi donc interdiction des réductions de peine pour certaines agressions ou menaces à l'encontre des fonctionnaires ou des forces de sécurité, pompiers. Et aussi donc ce fameux article 24. Donc là-dedans, il y a plusieurs mesures citées comme ça qui peut-être ne font pas forcément tilt dans la tête d'une personne lambda, comme ça pourrait être le cas pour moi. Mais il y en a plusieurs qui soulèvent des interrogations, parce que par exemple, on a la défenseure des droits Claire Hédon qui a pointé plusieurs risques, et j'aimerais bien que vous puissiez les détailler avec moi. Elle parle notamment d'un risque sur l'atteinte à la vie privée. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu en quoi certaines de ces mesures pourraient porter un risque concernant l'atteinte à la vie privée, voilà.
Mais c'est très simple. Vous voyez, ce que fait cette loi, c'est qu'elle autorise les forces de l'ordre à nous filmer, alors que dans le même temps, elle nous interdit de les filmer. Il y a là un effet de ciseau considérable et dangereux. C'est une loi de police parce qu'elle cache ce qu'il faudrait qu'on puisse voir, c'est-à-dire l'action d'agent public, et elle donne à voir ce qui devrait relever de l'intime, de notre vie privée. Quelques exemples. Un drone qui contrôle une manifestation. C'est particulièrement attentatoire à la vie privée parce que le drone retransmet, ou peut retransmettre, mais le retransmettra en direct les images de toute une foule à un poste de commandement de gendarmerie ou de préfecture, avec possibilité d'enregistrer ces images, de reconnaître les visages, d'enregistrer ces images. Alors bien sûr, pour une durée limitée, mais ça, personne ne vient contrôler la destruction des images au-delà de cette durée. Et un drone peut être utilisé bien au-delà des manifestations. Initialement, la proposition de loi, telle qu'elle a été présentée à la mi-octobre, le 20 octobre, prévoyait que les drones seraient utilisés pour le contrôle des manifestations. Mais d'ores et déjà, des amendements en ont étendu l'usage bien au-delà. On permet aux douaniers de les utiliser. On permet à la police municipale de les utiliser. On prévu qu'ils pourraient être utilisés pour lutter contre le terrorisme, c'est-à-dire pour à peu près tout, qu'ils pourraient être utilisés dans les lieux où sont susceptibles de se dérouler des violences particulières ou des trafics de drogue, c'est-à-dire à peu près partout. Est-ce qu'on imagine une société où des drones sont en permanence au-dessus de nos têtes, en enregistrant les images, en nous reconnaissant, en sachant que vous vous êtes à tel endroit, à tel moment, et qui sont par ailleurs susceptibles de filmer à l'intérieur des domiciles. À l'intérieur des domiciles. Un drone peut parfaitement regarder ce qui se passe à travers d'une fenêtre. Cette utilisation est d'une dangerosité extrême pour nos droits et libertés. Je crois que lorsqu'on aura basculé dans la société de contrôle de nos mouvements par drone, nous aurons probablement tout perdu sans rien gagner d'ailleurs en termes de sécurité, parce que l'ensemble de nos mouvements pourra être scruté de manière continue. Donc il y a là un danger considérable qui n'est pas justifié, qui n'est en rien justifié par quelque menace que ce soit, parce que le terrorisme peut être prévenu d'autres manières. Les manifestations violentes peuvent être prévenues par une culture différente des rapports entre les forces de l'ordre et la population, qui n'est pas celle actuellement prônée par nos responsables publics, qui privilégient la confrontation avec les manifestants. Et cette utilisation de drones est porteuse d'un risque absolument fou selon la bienveillance ou la malveillance du pouvoir en place. Aujourd'hui, nous savons qui est aux commandes. C'est un pouvoir autoritaire, c'est un pouvoir, je ne vais pas employer de mots trop forts, mais bon, qui a une dérive liberticide manifeste, qui ne fait que s'accroître. Mais demain, si c'est le même pouvoir avec une majorité parlementaire identique, eh bien, il peut aller encore plus loin avec tous ces outils-là. Ou si c'est un pouvoir qu'on dit extrémiste, de quelque nature qu'il soit d'ailleurs, peu importe, eh bien, il aura tous les outils pour exercer un contrôle total de la population. Nous sommes quand même le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est-à-dire que, à l'égard de l'ensemble de la planète, nous portons des valeurs de tolérance, de liberté, de démocratie, de respect de la dignité de la personne humaine, de respect de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de la liberté de manifestation, qui doivent être des flambeaux, des étendards. Or, nous avons basculé dans le côté obscur de la sécurité, qui fait que ben, nous sommes devenus, dans les démocraties, l'avant-garde des mesures sécuritaires. Et ce bascule, il est en réalité impardonnable. Je veux dire, ce qu'est en train de faire l'exécutif, est, avec la complicité du Parlement, est d'autant plus impardonnable que nous sommes en état d'urgence sanitaire. Que, ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, la période ne se prête pas à l'adoption de telles mesures, à la fois par leur objet même, qui n'a rien à voir avec la lutte contre le virus, et par les circonstances qui interdisent aux citoyens de s'exprimer normalement, au Parlement de travailler normalement. Par exemple, les universités sont inaccessibles aux étudiants. On ne peut pas tenir de conférence sur ce type de sujet en présentiel. Donc ça veut dire que le déséquilibre est total entre un exécutif et un Parlement qui ont carte blanche pour adopter quelques mesures que ce soit, et une société civile qui est brimée, sinon muselée, sauf via Internet, dans son expression.
Cette loi, selon la Défenseure des droits toujours, elle pose aussi des soucis d'égalité ou d'inégalité en fait devant la loi, puisque donc elle contient une mesure sur l'interdiction de la réduction des peines, c'est-à-dire que en gros on transpose des règles applicables en matière de terrorisme à des actes et comportements de gravité très inégale, selon les mots de la Défenseure des droits. Oui, la loi interdit la réduction de peine pour les personnes qui s'en prendraient aux forces de l'ordre, typiquement, ou à des fonctionnaires de police. Donc ça, la Défenseure des droits dit que ça produit une inégalité devant la loi, de même qu'il y a une inégalité dans l'accès aux fonctions d'agent de sécurité, puisque dans les conditions pour y accéder, désormais, il y aura une nécessité d'avoir séjourné en France pour 5 ans au minimum, pour les ressortissants étrangers. Donc ça, je ne sais pas si vous pouvez développer un petit peu, expliquer un petit peu aussi en quoi ce serait une atteinte à des libertés.
Ça me semble malvenu, je ne vois pas l'intérêt de ces dispositions. Je ne sais pas si elles sont conformes ou pas au principe d'égalité. Je suis heureux que la Défenseure des droits s'en saisisse. Je ne vais pas ajouter mon opinion à son expertise, qui me semble suffisante en elle-même. Je constate que ces dispositions, de toute manière, sont hors sujet en état d'urgence sanitaire. C'est vraiment pas le moment de savoir si un agent de sécurité privée doit ou pas avoir résidé en France pendant 5 ans ou 10 ans ou 15 ans ou 1 an avant de pouvoir accéder à ses fonctions. C'est totalement hors sujet dans la période actuelle, alors que nous allons être sous état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril 2021. Ces textes sont grotesques dans la période actuelle et malheureusement, je souhaite pas commenter ces dispositions qui me semblent tout à fait déplacées dans le contexte de catastrophe sanitaire que nous traversons.
Alors je voudrais juste quand même, maintenant qu'on a déblayé, pas l'intégralité, mais une grosse partie de la loi, et que vous nous avez expliqué les dangers que vous y percevez pour l'état de droit, vous poser une question sur la constitutionnalité en fait de cette loi. Parce que depuis tout à l'heure, on dit donc que ça atteint à nos libertés publiques. Mais est-ce qu'en fait, le Conseil constitutionnel ne pourrait pas tout simplement la censurer ce texte ?
Ce n'est pas impossible. Le problème, c'est qu'on ne peut plus compter que sur le Conseil constitutionnel, parce que la majorité parlementaire étant telle que l'adoption de ce texte est plus que probable. On a des députés qui exécutent les volontés de l'exécutif. Donc l'adoption des dispositions en cause, voire même d'autres dispositions sécuritaires nouvelles et renforcées, est plus que probable. Par conséquent, il n'y a plus comme filtre, comme garant de prescriptions constitutionnelles en faveur des libertés individuelles, il n'y a plus que le Conseil constitutionnel sur qui on puisse compter. Ce qui est déjà en soi, on va dire, désagréable, parce que Le Conseil constitutionnel, c'est quand même pas l'institution la plus libérale qui soit dans la République française. Le Conseil constitutionnel exerce son rôle en mettant en balance ordre public d'une part et libertés individuelles d'autre part, mais voilà, ce n'est pas non plus un héros des libertés individuelles, et ce n'est pas nécessairement d'ailleurs son rôle, puisqu'il est en effet appelé à effectuer cette balance. Mais on ne peut pas savoir aujourd'hui, en ce 19 novembre 2020, si le Conseil constitutionnel censurera ou pas la loi, pour la raison que le processus législatif vient à peine de commencer. Et il sera achevé probablement au début de l'année 2021. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on connaîtra la teneur précise des dispositions qui ont été adoptées par le Parlement. Et donc il est encore un peu tôt pour considérer que le Conseil constitutionnel censurera la loi. Il pourra le faire comme il l'a fait pour la loi Avia, en juillet 2020, qui restreignait la liberté d'expression, comme il l'a fait pour la loi Brown-Pivet, qui prévoyait des mesures de sûreté pour des personnes sortant de prison. Et cette censure a eu lieu en août 2020. Donc le Conseil constitutionnel pourra exercer son rôle de garant de la légalité constitutionnelle, mais dans un sens qu'il n'est pas encore possible de déterminer, parce qu'il faut connaître les termes définitif de la loi qui sera adoptée.
Loi qui sera adoptée effectivement assez rapidement, puisque le gouvernement a engagé la procédure accélérée dessus, donc ça réduit les navettes parlementaires. Voilà, le texte va être adopté plus rapidement que traditionnellement. Je voudrais qu'on dise assez rapidement quelques mots sur la loi, sur la programmation de la recherche. Vous êtes universitaire, vous êtes professeur de droit. Est-ce que vous pouvez donner une idée de son objet en quelques mots ?
Cette loi a été préparée, on va dire avec des guillemets, à travers différents. Elle a été annoncée en février 2019 par le Premier ministre. Puis il y a eu des rapports qui l'ont préparée. Puis il y a eu l'état d'urgence sanitaire et la question de son dépôt a été évoquée. Puis en juillet 2020, la ministre de l'enseignement supérieur a décidé de la déposer au Parlement en pleine période de vacances scolaires, d'ailleurs, ce qui pour une loi sur l'enseignement supérieur est un peu curieux, mais est parfaitement conforme à la Constitution. Voilà, il faut aussi que le Parlement travaille en juillet-août. Mais bon. Alors, bon, cette loi prévoit, soi-disant, des avancées en termes d'enseignement et de la recherche. Elle part d'abord sur un constat du décrochage de la recherche française, un constat qui est unanimement partagé, du décrochage de la recherche française, de l'absence d'attractivité de l'enseignement supérieur public français, constat qui est partagé et qui en lui-même est inquiétant. Mais la loi ne remédie pas à ce constat, elle ne fait que l'aggraver. Elle ne fait qu'en réalité qu'enfoncer l'enseignement supérieur dans le marasme dans lequel il se trouve depuis la loi LRU de 2007, la loi votée par Valérie Pécresse, à l'initiative de Valérie Pécresse en 2007. Elle prévoit d'un financement, alors comme toujours avec le quinquennat Macron et d'ailleurs dans les précédents, ça paraît tout à fait mirobolant, sont annoncés des financements de plusieurs milliards d'euros sur les 10 prochaines années, mais voilà, sont annoncés des financements de 26,3 milliards d'euros en faveur des universités d'ici à 2030, mais en réalité le Sénat a constaté que cette hausse serait en réalité 5 fois inférieure à ce qui est annoncé, du fait notamment de la prise en compte de l'inflation, et que la recherche publique ne bénéficiera pas des 26 milliards d'euros publiquement annoncés, mais seulement de 7 milliards d'euros supplémentaires d'ici à 2030. De sorte que les dépenses en faveur de la recherche de la part de la France sera toujours, en 2030, inférieure à 1% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, c'est 0,8%. Et l'objectif de la loi, c'était d'atteindre les 1%, ce qui est, disons, la moyenne dans les pays dits développés. Cet objectif ne sera pas atteint par les financements qui sont programmés. Par conséquent, déjà sur le terrain budgétaire, il y a une entourloupe qui a été mise en place par le Parlement et l'exécutif. Et aussi sur le terrain des carrières. Sur le terrain des carrières, cette loi est tout à fait catastrophique. Je dois vous dire que la situation de l'emploi public à l'université est dramatique. Dramatique, vraiment. Les enseignants sont sous-payés. Il faut être fou aujourd'hui pour vouloir devenir maître de conférence des universités. Parce que le salaire, le traitement plutôt des maîtres de conférences est ridicule par rapport au sacrifice qu'implique l'accession à ce poste. En 1985, un traitement de maître de conférence, c'était 2,25 SMIC. En 2018, ce n'est plus que 1,53 SMIC. Et ceci après souvent 7-8 ans de recherche et d'une vie quasi monacale consacrée à la rédaction d'une thèse d'enseignement en travaux dirigés. Alors, par ailleurs, les postes de maître de conférence des universités sont en décroissance dramatique aussi. Il y avait en 2006 2100 recrutements de maîtres de conférences. Il n'y en a plus que 925, soit à moitié moins en 2020, 14 ans plus tard, alors pourtant que le nombre d'étudiants a explosé pendant ces 14 années. Donc sur le plan de l'emploi, la loi, la LPR, ne remédie pas à la situation dramatique des enseignants-chercheurs en termes statutaires et de rémunération, non plus d'ailleurs que des personnels administratifs. Elle prévoit aussi une compétition tous azimuts, propre au macronisme, au néolibéralisme qu'Emmanuel Macron prône à l'instar de Margaret Thatcher. Il a en cela 40 ans de retard dans son idéologie managériale. On en voit les conséquences en termes de santé publique. Puisque les financements des projets de recherche vont être réalisés essentiellement, plus encore sur projet, à travers des demandes faites à l'Agence nationale de la recherche. Donc ça veut dire que les chercheurs et chercheuses devront rédiger des projets. C'est très lourd, c'est très long, c'est des dizaines et des dizaines d'heures de rédaction pour, le cas échéant, obtenir un financement par l'Agence nationale de la recherche. Et sans certitude à cet égard, c'est une perte de temps considérable, sans certitude d'obtenir un financement. Donc il y a une compétition pour les projets de recherche, une compétition pour les postes, puisque la loi prévoit l'adoption de contrats à durée indéterminée, mais déterminée quand même parce qu'ils seront liés à la réalisation de projets de recherche. La loi prévoit la création de ce qu'on appelle les tenure tracks, c'est-à-dire des postes d'enseignants qui ne sont pas pérennes, dont la titularisation sera soumise finalement à leur à une évaluation qui pourra prendre 3, 4, 5 ans par l'université. Donc c'est une précarisation considérable des emplois des enseignants-chercheurs qui est introduite. Et par ailleurs, la loi réduit les compétences, voire fait disparaître à terme les compétences de ce qu'on appelle le Conseil national des universités, le CNU, dans le recrutement et l'avancement et le déroulement de la carrière des enseignants-chercheurs. Donc le rôle du Conseil national des universités, qui est une instance perfectible, est contourné par la loi de programmation de la recherche. Elle a été en dernière minute, en toute dernière minute de la procédure législative, au profit de recrutements locaux université par université. Alors, bien évidemment, cette procédure nationale n'est pas parfaite. Personne ne la reconnaît comme telle. Mais elle a au moins le mérite d'exister et, disons, de donner une coloration d'objectivité à l'avancement de carrière, au recrutement, parce que c'est une instance collégiale composée de personnes venant d'universités différentes qui seraient remplacées par des recrutements locaux et donc, in fine, décidés par le président de l'établissement. Par ailleurs, la loi de programmation sur la recherche a ajouté, là aussi, en toute dernière minute, un délit d'intrusion dans les établissements universitaires, qui me semble tout à fait malvenu et qui l'a encore réduit l'autonomie des universités en pratique, puisqu'elle permet aux agents des forces de l'ordre et aux parquets d'intervenir dans le domaine public universitaire. Et donc, elle réduit à néant ce qu'on appelait les franchises universitaires. C'est une déclinaison de la liberté académique qui fait du président ou de la présidente de l'université le seul garant de l'ordre public dans l'établissement. Donc, c'est aussi...
En gros, pour rendre intelligible un petit peu ça pour les personnes qui ne savent pas vraiment, en gros, normalement, les forces de l'ordre ne peuvent pas intervenir dans les universités à moins que le président ou la présidente n'en fasse la demande, c'est
voilà.
Ça.
Alors, moi, j'ai été directeur de site dans l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pendant 8 années. J'ai eu un nombre considérable de blocages à gérer. Et je parle d'expérience. Je suis très opposé au blocage estudiantin pour diverses raisons. Très, très opposé au blocage. Je pense que c'est un mode de militance qui est désastreux pour les universités, pour la cause défendue et qui fait le jeu du pouvoir. Mais je suis tout autant opposé à la pénalisation de ces blocages. Parce que d'abord, sur le plan philosophique, on n'attaque pas la jeunesse apprenante de cette manière. Le couvercle pénal, comme je l'évoquais tout à l'heure, n'est pas un remède suffisant au malaise d'une partie de la population. Ce n'est pas comme ça qu'on répond.
Ceci dit, le texte, il me semble, ne vise pas ni les personnels des universités, ni les étudiants. C'est un délit d'intrusion. Donc, c'est pour les personnes qui seraient extérieures. Le gouvernement
présente cet
amendement comme...
C'est archi-faux. Toute personne qui bloque le fonctionnement normal d'un service public entre dans le champ du nouveau délit, qu'il soit étudiant, non étudiant, personnel, non personnel, enseignant, chercheur d'université ou autre. Toute personne qui bloque entre dans le champ du délit, quoi qu'en dise le gouvernement. Et d'ailleurs, le problème, justement, est que cette disposition, elle a été adoptée en toute dernière extrémité, sans réflexion préalable, dans la commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs, comme ça, à l'arrache. Et donc, par conséquent, d'où les difficultés d'interprétation que vous soulevez. Elles sont normales, puisque ce texte sort d'une pochette surprise. Mais je vous garantis qu'il concerne toute personne occupant un site universitaire. Or, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une franchise universitaire qui veut que un agent de police, je l'ai vécu, je le sais, d'expérience, ne rentre pas dans un site universitaire sans une demande expresse du président ou de la présidente de l'université adressée au préfet. Je l'ai vécu, j'ai eu des agents des forces de l'ordre devant mon site qui m'ont dit, et ils avaient raison de le faire, on ne rentrera pas dans votre établissement sans ordre de réquisition. Ils sont rentrés une fois ou deux pour aller aux toilettes, c'est tout. J'ai autorisé qu'ils rentrent pour aller aux toilettes, c'est tout. C'est une manifestation de l'autonomie des universités à laquelle nous tenons, nous, universitaires. Pour la raison simple que, dans une université, normalement, la police, comme d'ailleurs dans les collèges et lycées, la police n'a pas sa place, car nous sommes dans un service public administratif dont l'objet est l'enseignement et la recherche, où il ne peut pas y avoir de confrontation, parce qu'il ne peut pas y avoir de confrontation physique, parce qu'il ne peut y avoir que des débats d'idées, des désaccords doctrinaux qui se règlent par des échanges verbaux, par des désaccords idéologiques, mais c'est tout. Or, ce que fait la loi de programmation de la recherche est tout à fait contradictoire avec la mission même de l'université parce qu'elle transforme les universités en terrain de bataille physique. Elle acte le fait que les universités sont des lieux où une situation peut s'envenimer. C'est vrai, je l'ai vécu, c'est incontestable, mais c'est exceptionnel et ces situations doivent être prévenues et pas réprimées sur le plan pénal.
Alors juste pour conclure, je voudrais savoir si vous, à titre personnel, votre vocation du droit, elle a été motivée par un certain engagement, si dès le départ, vous l'avez perçu comme un moyen de faire bouger la société.
Pas du tout. Je suis venu au droit par hasard. J'ai fait d'abord une classe préparatoire. Je me suis inscrit en études d'histoire. Et c'est par défaut que je me suis inscrit en droit. Et j'ai voulu être enseignant-chercheur assez rapidement parce que la matière me plaisait et que je trouvais que voilà, c'était un métier qui me convenait, qui me convient d'ailleurs toujours, notamment sur le plan de la recherche. Et je n'ai pas du tout perçu au départ le potentiel militant que pouvait avoir des études de droit, une connaissance du droit, l'enseignement du droit. C'est un potentiel qui m'est apparu progressivement et qui, et pour moi, est devenu une nécessité pour la raison simple, c'est que constatant que les contre-pouvoirs s'éteignaient les uns après les autres ou que ça me nuisait, je me suis dit qu'il il entrait dans la mission des enseignants-chercheurs, il entrait dans l'exercice de la liberté académique dont nous bénéficions, de faire valoir un point de vue citoyen qui soit quand même, c'est important, documenté scientifiquement sur des questions sociétales pour essayer en quelque sorte de, non pas d'être un contre-pouvoir, j'aurais jamais cette prétention, mais voilà, de faire partager à la fois un savoir et une opinion. Cette opinion pouvant parfaitement être critiquée, mais l'idée c'est quand même qu'il y ait un débat. Je reprends l'état d'urgence. Il m'aurait semblé inacceptable que l'état d'urgence sécuritaire soit mis en place en 2015 sans qu'aucune voix dissidente ou qu'aucune voix critique ou qu'aucune voix interrogative ne s'exprime alors. La mission d'un enseignant-chercheur, sa raison d'être, c'est quand même de questionner l'existant et, le cas échéant, de proposer des pistes d'amélioration. Alors, je crois que ces missions, elles sont devenues essentielles aujourd'hui parce que, on le voit bien, la société est en train de changer. Nous avons une situation statutaire qui est encore très privilégiée et je crois que nous devons mettre en œuvre ce privilège dans toute la mesure du possible. Au service, sinon de l'intérêt commun, du moins du débat public.
Eh bien, c'est un super dernier mot pour conclure ce podcast qui s'appelle Activiste. Donc, on voit que vous y avez votre place, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Cassia.
Merci beaucoup à vous, Madame Meunier.
Merci à Paul Cassia d'avoir répondu au micro des activistes. Vous pouvez le suivre sur Twitter, @paulcassia1, CA2SIA suivi du chiffre 1. Et vous pouvez le lire sur son blog Mediapart, dont vous trouverez le lien dans les notes du podcast. Merci!
Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.